Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 8. Nous ne prenons rien par conquête. Dieu merci. Troisième partie. L'officier de marine, Revers, réunit les chefs indiens qui vivaient là, en Californie, et leur déclara ceci. « Je vous ai fait réunir pour parler avec vous. Le pays que vous habitez n'appartient plus au Mexique, mais à une très puissante nation, dont le territoire s'étend du grand océan que vous avez tous vu, ou dont vous avez déjà entendu parler, à un autre océan, à des milliers de kilomètres, vers le soleil levant. Nous sommes là pour préparer cette magnifique région à l'usage d'autres hommes, car la population du monde entier a besoin de plus de place. Ici, il y a assez de place pour des millions de gens qui occuperont et cultiveront le sol. Si vous acceptez les autres, si vous agissez comme il faut, vous n'aurez pas à vous retirer. Vous pouvez apprendre facilement, mais vous êtes paresseux. J'espère que vous changerez vos habitudes et deviendrez industrieux et frugaux. Abandonnez tous les misérables vices que vous pratiquez. Si vous restez paresseux et gaspilleurs, il se pourrait que vous disparaissiez dans les années à venir. Nous devons veiller sur vous et vous offrir la vraie liberté. Mais prenez garde aux traîtres, à l'anarchie et à tous les autres crimes, car l'armée qui vous protège peut assurément punir également. Et elle vous atteindra même dans vos caches les plus secrètes. Le général Kearney pénétra aisément au Nouveau-Mexique. Santa Fe tomba sans combattre. Un officier de l'état-major américain décrivit la réaction des populations mexicaines lors de l'entrée de l'armée américaine dans la ville. Notre armée dans la ville fut extrêmement guerrière, sabre au clair et regard meurtrier. Dans les coins, des hommes à l'attitude maussade et au regard oblique nous observaient avec attention, sinon avec terreur, et les regards noirs suivaient nos colonnes de cavaliers de derrière les jalousies. Certains brillaient de plaisir, mais d'autres s'emplissaient de larmes. Lorsque le drapeau américain eut été hissé et que les canons eurent fait résonner le glorieux salut national du sommet de la colline, l'émotion refoulée des femmes ne put être contenue. Les hurlements de chagrin couvraient le fracas de nos chevaux et nous parvenaient aux oreilles du fond des bâtisses lugubres qui nous environnaient. Cela se passait en août. En décembre, à Taos, au Nouveau-Mexique, les Mexicains se révoltèrent contre la domination américaine. Cette révolte fut réprimée et l'on procéda à des arrestations. Mais de nombreux rebelles réussirent à s'enfuir et continuèrent à mener des attaques sporadiques, tuant un certain nombre d'Américains puis se cachant dans les montagnes. L'armée américaine les poursuivit. Au cours d'un combat désespéré dans lequel 600 ou 700 rebelles étaient engagés, 150 d'entre eux trouvèrent la mort. La révolte sembla définitivement éteinte. Los Angeles se souleva également. En septembre 1846, les Mexicains forcèrent la garnison américaine de l'endroit à se rendre. Les États-Unis ne reprirent la ville qu'au mois de janvier suivant, après une bataille sanglante. Le général Taylor, ayant franchi le Rio Grande et occupé Matamoros, se dirigea ensuite vers le sud du Mexique. Sur le territoire mexicain, ses volontaires se montrèrent de moins en moins disciplinés. On pilla les villages. À l'été 1846, un officier relatait dans son journal que lorsqu'il atteignit Burrita autour de 17h, la plupart des volontaires de Louisiane s'y trouvaient déjà. Une meute avinée et sans foi ni loi. Ils avaient expulsé les habitants de leur maison et s'excitaient les uns les autres à se conduire comme des bêtes. Les viols commencèrent également à se multiplier. Lorsque les soldats remontèrent le Rio Grande jusqu'à Camargo, la chaleur devint insupportable, l'eau n'était plus potable et les maladies se multiplièrent. Diarrhée, dysenterie, jusqu'à faire un millier de morts. Au début, les corps étaient enterrés au son de la sonnerie aux morts. Et on abandonna les rituels funéraires militaires. Au fur et à mesure que les armées américaines progressaient, les batailles devenaient plus nombreuses. Elles firent plusieurs milliers de morts de chaque côté, plusieurs milliers de blessés et plusieurs milliers de malades. Le colonel Hitchcock, arrivant dans la ville de Veracruz, affirmait qu'il n'oublierait jamais le terrible tir de nos mortiers. frappant avec une horrible précision et explosant dans un fracas funèbre bien souvent chez les civils. C'était affreux. Néanmoins, en soldat obéissant, Hitchcock rédigea pour le général Scott une sorte de discours au peuple mexicain qui fut imprimé par dizaines de milliers d'exemplaires en espagnol et en anglais et dans lequel il déclarait entre autres choses « Nous ne vous voulons aucun mal, nous vous traitons avec civilité et nous ne sommes en aucune façon vos ennemis. » Nous ne pillons votre peuple, ni n'insultons vos femmes ou votre religion. Nous ne sommes là que dans l'espoir d'obtenir la paix. Il s'agissait d'une guerre menée par une élite américaine contre une élite mexicaine, chaque camp excitant, exploitant et tuant sa propre population aussi bien que celle de l'autre. Le commandant en chef des armées mexicaines, Santa Anna, avait maté rébellion sur rébellion. Ses troupes avaient-elles aussi violé et pillé à la suite de chaque victoire? Lorsque le colonel Hitchcock et le général Winfield Scott pénétrèrent dans la propriété personnelle de Santa Anna, les murs de sa maison étaient couverts de somptueux tableaux, mais la moitié de son armée était morte ou blessée. Le général Scott se mit en marche pour une ultime bataille, la prise de Mexico, avec 10 000 soldats. Ces derniers n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de se battre. Après 3 jours de marche, à Jalapa, 7 de ses 11 régiments s'évaporèrent, leur temps de service étant terminé. Aux abords de Mexico, à Churubusco, Mexicains et Américains s'affrontèrent durant 3 heures. Selon Wims, ces champs autour de Churubusco étaient à présent couverts de milliers de corps humains ainsi que de cadavres, de chevaux et de mules qui bloquaient les routes et emplissaient les fossés. 4000 Mexicains étaient morts ou blessés, 3000 autres étaient prisonniers. Comme souvent au cours des guerres, les batailles se déroulaient sans véritable objectif. Après l'un de ces combats autour de Mexico qui entraîna de terribles pertes, un lieutenant de la marine critiqua le général Scott pour avoir commis une erreur qui avait provoqué la bataille et avoir combattu avec des forces trop peu nombreuses et pour un objectif inexistant. Lors de la bataille finale pour Mexico, les troupes américaines occupèrent les hauteurs de Chapultepec. Elles pénétrèrent dans cette ville de 200 000 habitants après que le général Santa Anna se fût enfui vers le nord. On était en septembre 1847. Le général Santa Anna fit retraite jusqu'à Huamantla, où une autre bataille eut lieu qui l'obligea à s'enfuir de nouveau. Les rédacteurs des Chronicles of the Gringos résument ainsi l'attitude des soldats américains pendant la guerre. Bien qu'ils se fussent portés volontaires pour aller à la guerre et que l'écrasante majorité d'entre eux eussent rempli leurs engagements, affrontant sans broncher les difficultés et la bataille, et se comportant aussi bien qu'un soldat est en mesure de le faire dans un pays hostile, ils n'aimaient pas l'armée. Il n'aimait pas la guerre et, plus généralement, il n'aimait pas le Mexique et les Mexicains. La majorité d'entre eux n'aimait pas ce boulot, se plaignait de la discipline et du système de caste de l'armée et était surtout désireux de s'en sortir et de rentrer à la maison. Dans la nuit du 15 août 1847, les régiments de volontaires de Virginie, du Mississippi et de Caroline du Nord se rebellèrent contre le colonel Robert Putt Payne dans le nord du Mexique. Payne tua l'un des mutins, mais 2 de ses lieutenants refusèrent de l'aider à réprimer la mutinerie. Les rebelles furent finalement graciés pour permettre le retour au calme. La désertion s'amplifia. En mars 1847, l'armée comptait 1 millier de déserteurs. Le nombre total des déserteurs durant la guerre s'élevait à 9207 soldats, dont 5331 de l'armée régulière et 3876 volontaires. Ceux qui ne désertaient pas devenaient de plus en plus difficiles à contrôler. Toute la gloire de la victoire revint au président et aux généraux, et non aux déserteurs, aux morts et aux blessés. Dans le 2e régiment d'infanterie légère du Mississippi, 167 soldats étaient morts de maladie. 2 régiments de Pennsylvanie, qui étaient partis forts de 1800 soldats, revinrent avec seulement 600 hommes. John Calhoun, de Caroline du Sud, déclara au Congrès que 20% des soldats étaient morts sur le champ de bataille ou de maladie. Les volontaires du Massachusetts, au nombre de 630 au début, finirent la guerre avec quelques 300 morts, pour la plupart de maladies. Lors de la réception qui honorait leur retour, leur commandant, le général Cushing, fut cependant porté en triomphe par ses hommes. Le Chronicle de Cambridge écrivit « Des accusations de nature extrêmement sérieuse contre l'un ou l'autre de ses responsables militaires sortent quotidiennement de la bouche des volontaires. Comme les vétérans revenaient chez eux, les spéculateurs sortirent immédiatement de leurs trous pour acheter les titres de propriété que le gouvernement leur avait attribués. De nombreux soldats, en manque cruel d'argent, vendirent leurs 64 hectares de terre pour moins de $50. Le Commercial Advertiser de New York annonçait, en juin 1847, « Il est de notoriété publique que d'immenses fortunes s'étaient faites au détriment des pauvres soldats qui avaient versé leur sang pendant la guerre d'indépendance par des attentistes qui avaient su profiter de leur détresse. » Un système identique de dépossession s'est organisé autour des soldats de la dernière guerre. Le Mexique capitula. Certains Américains demandèrent que l'on annexe l'ensemble du pays. Le traité de Guadalupe Hidalgo, ratifié en février 1848, se contentait de la moitié. La frontière du Texas fut déplacée jusqu'au Rio Grande. Le Nouveau-Mexique et la Californie furent cédés aux États-Unis, qui versèrent en retour 15 millions de dollars au Mexique, autorisant ainsi le Whig Intelligencer à conclure « Nous ne prenons rien par conquête, Dieu merci ». Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.